Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galza.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Vous nous écoutez sur les ondes, vous nous écoutez sur YouTube, vous nous écoutez sur notre site, sur diverses applications, mais vous êtes tous là avec nous chaque matin et c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, eh bien, l'équipe est au grand complet, étant donné que je suis avec Maëlys. Bonjour Maëlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à nos auditeurs.
Je suis également accompagné de Magda Dautefeuille. Bonjour Magda.
Bonjour Alexandre.
Et d'Arnaud à la technique.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous, bonjour mesdemoiselles.
Voilà, mais remarquez cette convivialité déjà qui nous anime si tôt le matin, plein de joie et de bonne humeur. Alors aujourd'hui, bonne humeur, en fait on va parler du Liban sous les bombardements à 7h10. Bon, ce sera peut-être pas exactement la bonne humeur, mais enfin, on en parlera avec Xavier Maire, voilà, qui est responsable de la mission urgence humanitaire qui est sur place au Liban. À 7h25, nous recevrons Philippe Murer, président du mouvement politique citoyen, qui nous parlera des crises énergétiques, numériques, diplomatiques qui sont liées à l'Iran et qui risqueraient de retomber sur la France. À 8h16, ce sera la chronique d'Astrid de Némésis. À 8h20, nous recevrons Séverine Dumini qui nous parlera de l'école qui, quelquefois, est effectivement complice de transactivisme. Et enfin, à 8h57, à 9h05, pardon, ce sera Jean Messia qui nous rejoindra comme chaque jeudi. Donc voilà, un joli programme en perspective, plein de sujets qu'on va réussir à brosser tant au niveau national qu'international. Mais avant de commencer, nous ferons un petit point sur l'actualité avec Maëlys Clozel.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a officialisé un vaste plan de régularisation pouvant concerner près de 500 000 sans-papiers afin de soutenir la dynamique économique du pays, autrement dit soutenir l'esclavage moderne entre autres, Jordan Bardella rétorque et dénonce une porte d'entrée de la submersion migratoire en Europe. En déplacement à Porto, il accuse la gauche espagnole de chercher à se constituer un électorat de substitution tout en alertant sur les conséquences de la libre circulation de ces immigrés fraîchement régularisés vers les pays voisins, dont la France. Et le président du RN appelle également à restreindre l'espace Schengen aux seuls citoyens de l'Union européenne. De son côté, Bruno Retailleau a demandé de placer l'Espagne au banc des nations européennes, une sortie balayée par Jordan Bardella qui voit surtout une tentative de faire oublier son bilan en matière d'immigration. C'est vrai que nous ne voyons que très peu les bienfaits tant ils sont inexistants.
Et puis en parlant d'esclavage moderne, les géants américains des livraisons de repas à domicile ont reçu une plainte à leur encontre.
Eh bien oui, 4 associations de livreurs ont déposé plainte auprès du parquet de Paris visant Uber Eats et Deliveroo pour traite d'êtres humains, une qualification pénale inédite qui vise à dénoncer un système d'exploitation à grande échelle. Les plaignants s'appuient notamment sur les données de Médecins du Monde. Les livreurs travailleraient en moyenne 63 heures par semaine pour 1 480 € net mensuels, soit moins de 6 € bruts de l'heure. L'étude souligne aussi que 98% des livreurs seraient immigrés, dont 68% sans titre de séjour. Un constat qui nourrit un paradoxe tout en dénonçant un esclavage moderne. Médecins du Monde défend des politiques favorables à l'accueil des migrants et donc à leur exploitation. Une contradiction qui interroge sur l'éthique et la véritable estime de ces associations pour ces étrangers. Peut-être serait-il l'heure d'être honnête, on leur demandera. Et à ce propos, notre journaliste Xavier Van Lierde dressait à notre antenne le profil des personnes les plus séduites par les livraisons de sushis ou de malbouffe à domicile. Écoutons-le.
C'est des gens plutôt jeunes, diplômés, qui travaillent souvent dans les arts et spectacles, vous voyez le tableau. Alors ils sont pro-européens, pro-accueil des migrants, pro-adoption pour les couples homosexuels, massivement contre la peine de mort, etc. Leurs votes vont à gauche, de la gauche jusqu'à l'extrême gauche. Ils ne représentent que 5% des Français, mais enfin ils sont paradigmatiques. Eh bien c'est chez eux que le recours aux plateformes de livraison de repas atteint un record, tenez-vous bien, à 46%. C'est-à-dire qu'un de ces progressistes sur deux se fournit pour manger le soir chez Uber Eats plutôt que lui qui aime tant le vivre ensemble aller dans un restaurant ou se cuisiner soi-même des bons petits plats.
Ils font pédaler des clandestins pour manger, quoi.
Et exactement. Et dans l'enquête de nos confrères d'extrême gauche, de Street Press, il y a un passage d'ailleurs assez assez drôle et triste et pathétique en réalité, où ils décrivent la scène de la, je sais plus si c'est la police ou l'inspection du travail qui vient arrêter un de ses livreurs subsahariens, et le réflexe du client, c'est de tout de suite s'interposer pour aller défendre ce pauvre travailleur étranger, sans comprendre qu'en réalité, de la sorte, il entretient un système qui est proprement esclavagiste.
Voilà, on n'est pas étonné. C'était donc Xavier Van Lier. L'entretien complet est à retrouver sur la chaîne YouTube de Ligne Droite.
Et puis, une fois n'est pas coutume, Gérald Darmanin salue le fait d'avoir un tout petit peu moins d'immigrés chez nous.
Bien oui, Alexandre, rappelons que sous Darmanin à l'intérieur, la France délivrait plus de 330 000 titres de séjour par an, rien que ça. Aujourd'hui, coup de théâtre, le garde des Sceaux se félicite d'une hausse de plus de 70% des expulsions de détenus étrangers, présentées comme un levier contre la surpopulation carcérale. Au 1er avril 2026, les prisons françaises comptent 88 419 détenus, dont 24% d'étrangers. Malgré cette politique, la situation reste critique, avec un taux d'occupation dépassant 137%, symptôme d'un système pénitentiaire clairement sous tension. La barre des 90 000 détenus pourrait être atteinte d'ici quelques mois, rendant les mesures actuelles largement insuffisantes. Dans ce contexte, Aurore Berger appelle à durcir les règles migratoires, estimant que les Français pourraient bientôt dire stop à l'immigration pour de bon. Mais la dame semble avoir quelques trains de retard, puisque le rejet de l'immigration s'exprime déjà allègrement dans les sondages et les urnes, notamment à travers la progression du vote en faveur du Rassemblement national.
Et un nouveau tragique événement chez nos soldats français.
Hélas, effectivement, un second militaire français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban est décédé. Le caporal-chef Anissé Girardin a succombé à ses blessures après l'attaque de samedi dernier au Liban, attribuée au Hezbollah. Il intervenait aux côtés de l'adjudant Florian Montorio, également tué dans cette embuscade visant des casques bleus français. Une cérémonie d'hommage national est prévue.
Et du côté du sport, les Français raffolent de plus en plus du ballon ovale.
Tout à fait, ils ont raison. Selon la Ligue nationale de rugby, les stades de top 14 affichent une affluence moyenne de 15 923 spectateurs après 20 journées, en hausse donc de 2% sur un an. Une progression qui prolonge la dynamique déjà très forte de la saison précédente. Preuve que l'engouement ne faiblit pas, le rugby continue de rassembler toujours plus de supporters dans les tribunes, confirmant son statut de sport majeur en France. Et l'ancrage populaire du top 14 n'en déplaise à un certain Thomas Porte.
Eh bien vous, j'attends que vous ayez une chronique, une rubrique 20. Hein. Bon, et sinon, pour ce qui est de la météo.
Aujourd'hui, le soleil domine sur la quasi-totalité du pays, avec seulement quelques nuages sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Côté température, 12 pour la saison, nous attendons de 16 à 26 du nord au sud, avec notamment 22 à Paris et jusqu'à 26 à Biarritz. Et nous célébrons ce 23 avril Saint-Georges, saint patron des chevaliers, des soldats, des scouts, des escrimeurs et des archers, ça en fait du monde, et Saint-Égide.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et désormais, nous passons au décryptage de Magda Hautefeuille.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'une annonce qui en dit long sur le fonctionnement réel de l'État. Emmanuel Macron veut désormais appliquer ce qu'il appelle la méthode Notre-Dame de Paris à l'industrie française, autrement dit des procédures exceptionnelles pour accélérer des projets jugés stratégiques. L'objectif est de débloquer 150 projets industriels pour un total de 71 milliards d'euros d'investissement et environ 32 000 emplois répartis dans 63 départements. Le président parle même de 150 cathédrales industrielles, ce qui montre qu'ils sont présentés comme essentiels pour l'économie du pays. Alors sur le papier, le constat il est juste, la France a besoin de réindustrialiser. Emmanuel Macron reconnaît lui-même que tout miser sur les services était une erreur. Alors si aujourd'hui, l'État explique qu'il faut aller plus vite, simplifier, contourner certains blocages, cela veut dire qu'il reconnaît implicitement que le système qu'il a lui-même construit est devenu un frein. Et ce frein est bien identifié puisque depuis le début des années 2000, le code de l'environnement est passé d'environ 1000 à plus de 3000 articles. Autrement dit, un empilement de normes qui ralentit, complexifie et parfois bloque des projets pourtant nécessaires, y compris dans le domaine de la transition écologique. Et face à cela, la réponse n'est pas de simplifier tout cela, mais de créer des exceptions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met en place des procédures accélérées, réduction des délais administratifs, limitation des recours et surtout suppression d'un niveau de juridiction avec un passage direct devant la cour administrative d'appel. L'objectif étant de gagner au moins un an sur les contentieux. Alors, pourquoi en arriver là ? Pourquoi faut-il des procédures exceptionnelles pour que des projets aboutissent ? Pourquoi ne pas appliquer cette logique à l'ensemble? Eh bien, le système normal est devenu trop lourd. L'État explique vouloir accélérer, simplifier, débloquer, mais dans le même temps, il maintient un cadre général qui produit exactement l'inverse. On crée donc un double système. D'un côté, un système lent, complexe et bloquant, et de l'autre, un système qui est accéléré, réservé à certains projets jugés prioritaires. Et cette logique ne s'arrête pas là, elle s'étend aussi à l'énergie et aux matières premières. Parce que oui, le plan inclut notamment des projets liés au lithium, aux énergies renouvelables, au nucléaire, ainsi qu'au recyclage des matériaux critiques. Ce discours n'est pas nouveau. Depuis des années, l'État promet un choc de simplification pour lever les blocages administratifs, avec d'autres annonces déjà faites dans le passé, avant de retomber sans effet durable. On redécouvre aujourd'hui un problème identifié depuis longtemps, sans que les tentatives précédentes aient réellement changé la situation. À cela s'ajoute une dimension aussi européenne. Le président évoque la nécessité de protéger certains secteurs face au dumping chinois en assurant une forme de préférence européenne en ligne avec ce que font déjà les États-Unis ou la Chine. Mais là encore, le problème reste. Tout cela repose sur une accélération qui est ciblée et non sur une réforme qui est structurelle. On identifie les blocages, puis on les contourne, mais on ne les supprime pas. Donc cette méthode Notre-Dame est présentée comme une solution. Mais elle dit surtout que si l'État doit créer des procédures exceptionnelles pour que des projets avancent, c'est que le fonctionnement normal ne marche pas. Le problème n'est pas la vitesse, le problème c'est le système. Le système est devenu trop complexe pour fonctionner sans dérogation. L'État s'adapte donc à ses propres blocages.
Excellent décryptage, merci beaucoup Magda Dodefeuille.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de parler du Liban et de parler du Liban avec Xavier Maire. Xavier Maire, bonjour. Vous êtes chroniqueur indépendant, responsable de mission association urgence humanitaire et vous êtes actuellement au Liban. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Oui, je suis là. Vous m'entendez bien?
Parfait. Alors, Xavier Maire, vous êtes actuellement justement sur place au Liban. Déjà, ça fait effectivement quelques jours qu'on est quand même censé être dans une forme de cessez-le-feu qui a été mise en place donc par les États-Unis suite à des négociations et qui sont en négociation avec l'Iran. Théoriquement, donc, la situation est gelée au Moyen-Orient. Est-ce que c'est ce que vous observez?
Alors, la situation est gelée, oui et non, parce que l'armée israélienne a annoncé continuer ses opérations dans les territoires occupés, dans le sud Liban. Et tous les jours, il y a des drones israéliens qui survolent la ville de Beyrouth, la Beka et constamment le sud Liban. Donc, on peut pas dire qu'on soit vraiment dans un climat de paix sur place.
Alors justement, quelle est la situation des territoires occupés actuellement? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même on est à plus d'un million et demi de déplacés aujourd'hui sur un pays de 5 millions d'habitants par donc l'armée israélienne. C'est-à-dire que le sud du pays est totalement vide et que donc on imagine qu'il y a des camps de migrants, enfin de migrants internes au pays, un petit peu partout.
Alors oui, bien sûr, il y a des camps de déplacés, il y a des écoles qui accueillent tous ces réfugiés. Hier dans la journée, j'ai pu passer dans le centre-ville de Beyrouth et on peut voir le long de la plage des centaines de tentes parce que le gouvernement libanais n'est pas en capacité d'accueillir tous ces déplacés. Je crois qu'ils prennent en charge actuellement 200 000 déplacés sur le million. Le reste, c'est régulièrement l'Église catholique et aussi les autres organisations politiques qui prennent en charge les déplacés.
Et alors, justement, on sait qu'il y a beaucoup de missions humanitaires là-bas. On va revenir un petit peu sur sur ce que vous faites vous-même sur place. Simplement, je voudrais revenir d'abord, avant ça, sur deux actualités. La première, c'est la question de la FINUL, donc la force onusienne qui est présente au Liban. Deux soldats français sont morts ces derniers jours, tués par des l'un dans une attaque du Hezbollah, l'autre dans des circonstances qui sont encore à éclaircir, hein, mais d'une certaine façon. Quelle est la situation de la FINUL? Est-ce qu'on sent que justement ils se servent de forces d'interposition?
Bon, moi, je vais être totalement direct. Je pense que c'est une force qui est inutile et qui ne sert pas à grand-chose dans le sud Liban, parce qu'on parle justement des deux soldats français qui auraient été tués par les forces du Hezbollah. Hein. Donc, pareil, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce que pour le moment, il y a une enquête qui est en cours. Et je ne pense pas que le Hezbollah aurait intérêt à, je pense, à tuer des soldats français dans cette situation, surtout avec le cessez-le-feu. Donc pour le moment, je pense qu'il faut attendre l'enquête en cours. Et concernant la FINUL, je tiens à rappeler quand même qu'il y a deux semaines, certains membres de la FINUL, dont des soldats français, ont été pris pour cible par l'armée israélienne. Mmh. Alors heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais régulièrement, les forces d'ONU ont été prises pour cible par l'armée israélienne. D'ailleurs, il y a deux soldats indonésiens qui ont été tués par un tir de Merkava de l'armée israélienne. On en a très peu parlé dans la presse occidentale.
C'est vrai, et puis même on peut penser à cette journaliste libanaise qui, rien qu'hier aussi, est morte dans une frappe israélienne. C'est un autre sujet important, mais autre point, c'est quelque chose pour le coup qui a fait beaucoup écho dans la presse au moins conservatrice occidentale, c'est ce crucifix abattu par un soldat israélien. Alors vous êtes au contact des chrétiens aussi sur place. Comment ça a été vécu là-bas? Est-ce qu'ils s'attendaient à un tel retentissement? Et quelque part, est-ce que c'est une surprise aussi de voir ces soldats de Tsahal commettre des actes anti-chrétiens?
Non, les chrétiens sont pas choqués ici. Tiens, rappeler quand même qu'il y a eu une occupation du sud Liban à la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000. Et malheureusement, par exemple, l'église de Yaroun en 2023 avait été totalement détruite. Il y a eu plusieurs églises dans le sud Liban qui ont été bombardées. Deux ont été totalement détruites. Pourquoi ? Pourquoi bombarder des églises? Pourquoi bombarder des quartiers chrétiens? D'ailleurs, on est venu en aide aux populations chrétiennes dans la ville de Tyr. Alors, heureusement, celles-ci n'ont pas été prises pour cible, mais elles étaient, choquées, scandalisées par les événements à Debel, où on voit la photo d'un soldat israélien avec une masse massacrant le visage du Christ. Alors j'ai pu voir là hier que des forces de la FINUL ont fait don d'une croix des soldats italiens qui ont pu la remettre en place, mais c'est tout de même attristant de voir ce genre de situation.
Et alors maintenant abordons peut-être un petit peu plus l'aspect humanitaire quelque part d'une certaine façon. Et comme vous l'avez dit, Israël a déjà occupé pendant plus de 30 ans, pendant une trentaine d'années, eh bien, le sud Liban. Désormais, rebelote. À quoi s'attendent les Libanais? Quelle est leur mentalité sur ce sujet? Est-ce qu'ils sont plus dans un rejet? Est-ce qu'ils en veulent plus au Hezbollah ou à Israël ou alors aux deux? Justement, comment ils voient un petit peu cette offensive de leur côté?
Alors, ils reprochent les actions du Hezbollah d'entrer dans une guerre qui n'est pas la leur. Mais par contre, les Libanais sont pas dupes. Hein. Beaucoup disent que le Hezbollah est un prétexte pour envahir le sud Liban. On peut le voir. Hein, les Israéliens mettent en place une ligne jaune, une zone d'occupation. Ça va finir comme le plateau du Golan en Syrie, avec une occupation à terme. C'est malheureusement le scénario probable.
Donc ça veut dire que l'armée israélienne occuperait eh bien, tout le territoire libanais en dessous du Litani, c'est bien ça?
Alors, au sud du Litani, je ne sais pas. Il faut attendre déjà les 10 jours du cessez-le-feu, mais ils ont déjà mis en place une zone de démarcation et ils sont en train de tout détruire. C'est pour ça que je vous disais que les opérations étaient en cours. Ils continuent à bombarder continuellement dans le sud Liban, à détruire toutes les maisons. Ils veulent faire une terre brûlée avec zéro occupation. Il me semble qu'il y a 55 villages aujourd'hui Libanais qui sont occupés par l'armée israélienne. Donc, ces 55 villages, les Libanais déplacés ne pourront pas retourner sur leur terre.
Autre point, donc justement, sur l'aspect ce million et demi de déplacés, finalement, quelle proportion ? C'est-à-dire qu'on sait que la zone du sud Liban était plutôt chiite tout de même, mais est-ce qu'on retrouve également des chrétiens ? Est-ce qu'on retrouve également, même des chrétiens arméniens ? Est-ce qu'on retrouve aussi des sunnites ? Quel est le profil, quelque part, de ces déplacés ? Est-ce que ce sont plutôt des pauvres, des riches ? Quelle est la situation ?
Alors, c'est la majorité des chiites, mais bien sûr, il y a des localités qui sont chrétiennes. J'ai parlé par exemple des trois villages le long de la frontière, hein, ces villages qui ont refusé d'être évacués et de rester dans leur village. Il y a Ain Debel, Rmeish, Kleya. Ces villages sont chrétiens, ils ont refusé d'être évacués. On a également fait une mission humanitaire dans la ville de Tyr, où 250 familles chrétiennes ont décidé de rester dans la ville. Alors les bombardements ont particulièrement été très violents sur place. D'ailleurs, pour anecdote, le soir du cessez-le-feu, alors qu'il devait être mis en place à minuit, à 23h59, les Israéliens ont tiré plusieurs roquettes dans le centre-ville et rasé un quartier entier. À 23h59.
Ouais. Ouais, et alors, il nous reste 2 minutes, Xavier Maire. Moi, ce que je vous proposerais justement, c'est peut-être d'expliquer un petit peu comment vous mettez en place aussi, vous, votre action humanitaire sur place, quelles sont les actions concrètes que vous menez quelque part, et aussi, est-ce que ça comporte pour vous un lot de dangers avec ?
Alors, nous avons réalisé une mission, un convoi humanitaire, pour la ville de Tyr avant le cessez-le-feu avec SOS Chrétien d'Orient, dont je tiens à saluer et à remercier pour l'organisation, où on a pu SOS a pu livrer 250 colis alimentaires, et nous, de notre côté, avec Urgence Humanitaire, on a pu livrer l'eau potable pour ces 250 familles. Et oui, notre action est bénéfique sur place parce que nous étions les seuls ONG à se rendre dans ces zones. Pourquoi ? Parce qu'il y a régulièrement des bombardements. Et d'ailleurs, lors de notre distribution, à la fin de celle-ci, même pas une heure après, il y a eu le bombardement du pont, du dernier pont qui était sur la rivière Litanie, qui permettait l'accès au sud Liban, qui a été bombardé. Donc à une heure près, on aurait pu se retrouver sous ces bombes. C'est un peu notre quotidien en tant qu'humanitaire. Prendre certains risques, mais le problème, c'est surtout au Liban, il n'y a aucune prévention. L'armée israélienne ne va pas envoyer un message pour dire attention, on va bombarder d'ici 30 minutes.
Et pourtant, ils disent
donc,
qu'ils font ça.
Nos déplacements sont aléatoires.
Mais pourtant, ils disent. Pourtant, l'armée israélienne, elle, dit qu'elle prévient quand justement il y a des frappes pour éviter que les civils en soient victimes.
Alors, pour le pont, il n'y a pas eu de prévention. À 23h59, il n'y a pas eu de prévention pour le bombardement du centre-ville. Régulièrement, pour dire, quand nous faisions la distribution à Tyr, toutes les 2 minutes, nous entendions une explosion. Il y avait une roquette qui tombait. Toutes les 2 minutes. Et ça a été ça toute la journée. Et j'en parlais au prêtre de la paroisse. Il me disait, mais ça, c'est normal. Il a dit, vous seriez venu quelques jours avant. Il a dit, c'était toutes les minutes.
Merci Xavier Maire d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer justement ce Liban sous les bombes, sous les roquettes. Heureusement que le cessez-le-feu donc permet un petit peu de mettre du repos là-dedans, et espérons donc un sort favorable aux Libanais et aux chrétiens libanais. Merci de votre action humanitaire. Je rappelle Urgence Humanitaire avec SOS Chrétien d'Orient que vous connaissez bien, chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Bonjour aux auditeurs qui nous rejoindraient, il est 7h24, et bien à 7h50 ce sera la chronique d'Arthur de Vatrigan, et puis à 8h15 et bien la chronique d'Astrid de Némésis, mais tout de suite on passe au grand entretien.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Pour ce grand entretien, je reçois Philippe Murer. Philippe Murer est bien cofondateur du mouvement politique citoyen, économiste. Et aujourd'hui, on va parler de sujets légèrement variés, disons. L'idée, c'est en fait de réussir à brosser un petit peu le portrait de la nouvelle crise frappe et frappera encore la France et l'Europe sur les prochains mois à cause de cette guerre au Moyen-Orient. Tout d'abord, Philippe Murer, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, je suis bien avec vous. Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors merci à vous de votre côté d'être venu. Moi j'aurais une première question toute simple, c'est que alors je crois on vous a pas reçu justement pour parler précisément de ce sujet, mais est-ce que déjà il n'y a pas un premier échec diplomatique dans le lancement de cette crise avec une offensive occidentale qui exclut l'Europe finalement, une offensive israélo-américaine dans laquelle finalement notre continent et plus particulièrement la France ne sont pas concernés?
Effectivement, dès le lancement de la crise, en fait, c'est une attaque coordonnée, une agression de l'Iran par les États-Unis et Israël en pleine négociation. Donc c'est clair, alors qu'ils étaient en train de négocier avec les Iraniens, que l'Europe ne soit pas dans ces attaques, moi je m'en réjouis parce que agresser un autre pays et aller envahir un autre pays sans raison, c'est pas une très bonne chose, ça serait une terrible chose pour la France et pour l'Europe. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui c'est bloqué au niveau diplomatique, mais c'est bloqué à tous les niveaux cette guerre. Parce que, tout simplement parce que les États-Unis ne peuvent pas aller plus loin, et on va voir pourquoi. Et ils ne veulent pas accepter les conditions iraniennes. Ah oui, parce que les conditions iraniennes ne sont pas méchantes, hein, finalement. C'est la levée des sanctions économiques et financières contre l'Iran, qu'ils subissent depuis 47 ans, qu'ils n'ont pas de raison d'être, et le fait qu'il n'y ait plus de guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec des garanties de sécurité, contre ce que peuvent offrir les Iraniens, c'est-à-dire le déblocage du détroit d'Hormuz, revenir à la situation d'avant, et évidemment, ce qui est très très probable, c'est d'accepter la dilution de l'uranium qui a été enrichi à 60% et des restrictions. Et l'Iran se sent assez fort militairement pour enfin obtenir la levée des sanctions. C'est ça la clé pour eux, de cesser d'être un paria pour l'économie mondiale, et il ne cédera probablement pas. Parce que l'Iran ne craint pas le blocus par les États-Unis du détroit d'Hormuz.
Attendez, d'abord, Philippe Murer, le premier point là-dessus qui est assez intéressant, c'est que ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est que finalement, l'Iran se retrouve avec une meilleure position diplomatique après la guerre qu'avant. C'est-à-dire que finalement, en fait, l'attaque d'Israël et des États-Unis pourrait in fine bénéficier, alors c'est un peu dur à dire parce que forcément ils ont été très durement touchés aussi les Iraniens, mais pourrait bénéficier diplomatiquement sur le long terme à l'Iran.
Oui, tout à fait, parce que cette guerre a été malmenée. On a oublié la géographie totalement montagneuse de l'Iran, donc un pays extrêmement dur à prendre, et du golfe Persique avec le détroit d'Hormuz, et le fait que les Iraniens ont une puissance militaire asymétrique mais très forte sur les missiles, avec des dizaines de milliers de missiles au départ, dont des milliers de missiles de très haute technologie, et sur les drones. Oui, tout à fait, il y a eu une erreur de calcul qui fait que finalement les États-Unis sont bloqués. En fait, l'Iran n'a pas gagné, mais en fait, il y a patte aux échecs, c'est-à-dire qu'il y a match nul. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre, vous comprenez, un détroit d'Hormuz bloqué et de détruire l'économie mondiale. Donc, l'Iran, effectivement, se sent assez fort militairement, et on le voit, hein, c'est eux qui refusent d'aller à la table des négociations, ce qui montre une force militaire derrière pour enfin obtenir la levée des sanctions, d'être un paria de l'économie mondiale. Et ça serait quand même une bonne chose, je pense. C'est-à-dire, quelle est la raison de mettre des pays sous sanctions totales et d'avoir des peuples et des pays qui sont complètement ruinés par cela? Parce que
En l'occurrence, le fait d'avoir massacré une bonne partie de sa population, ça peut jouer aussi. C'est-à-dire que forcément, quand on a un régime, alors on dira toujours le deux poids deux mesures, mais quand on a un régime qui a tué des dizaines de milliers de ses concitoyens il y a seulement quelques semaines, c'est aussi normal qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait finalement une réaction, et que finalement on ne laisse pas les Iraniens exclusivement sans en dire un mot à leur propre sort.
Les sanctions, elles durent depuis 47 ans. Il faut bien comprendre. Hein. Depuis 47 ans, elles ont lieu. Il faut bien comprendre que le régime des Mollahs dont on parle, Allez voir ce que raconte Eric Waranka avec des archives. C'est les Américains qui ont fait tomber le chat, qui voulaient trop faire monter les prix du pétrole, que Wall Street considérait comme déraisonnable, et qui fait en fait qu'on a le régime des mollahs aujourd'hui. C'est les Américains qui ont favorisé la révolution en Iran. Après, vous savez, chaque peuple a le droit de choisir ses dirigeants. C'est toujours mieux que ce ne soient pas des pays étrangers qui n'ont aucune légitimité. Effectivement, je déteste quand tout le monde déteste qu'il y ait des opposants qui puissent être tués. Alors, de quelle manière? On est dans le brouillard hein, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations, mais qui puissent être tués et que les régimes ne soient pas démocratiques et autoritaires.
Non, mais en l'occurrence.
Mais on n'intervient pas dans tous les pays du monde où les régimes sont autoritaires et que les gens ne nous plaisent pas. Parce que sinon, vous avez la guerre partout. Vous savez, en tant que Français, il y a plein de régimes qui ne nous plaisent pas. On ne va pas les envahir, on va laisser les gens vivre leur vie, les pays vivre leur vie, et les peuples choisir qui ils veulent. Quoi.
Mais absolument, mais ce que du coup j'aimerais bien savoir de votre pensée, Philippe Murer, c'est quand vous voyez justement un pays comme l'Iran, qui effectivement depuis près d'un demi-siècle est une dictature, hein, on peut le dire je pense, est une dictature islamiste, et à côté de ça, ça a certes pas dérangé les Iraniens pendant quelques temps, mais on voit quand même que depuis quelques années, eh bien, il y a de très nombreuses manifestations d'ampleur nationale qui sont très violemment réprimés par le régime. On parle encore une fois de, on va dire, à peu près 30 000 morts, justement, rien que sur la période de décembre à janvier. Dans une situation comme celle-ci, que doit faire la France, par exemple? Quelle doit être la position de la France, déjà avant même le début du conflit israélo-de l'attaque israélo-américaine? C'est-à-dire que vous l'avez dit en filigrane, c'est certain que on ne libère pas un pays avec des bombes, et que ça, c'est quelque chose que les Américains n'ont toujours pas appris visiblement. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait quand on a un régime qui, encore une fois, tue des dizaines de milliers de manifestants, qui emprisonne ses opposants et qui visiblement fait vivre, je dirais pas un enfer, mais en tout cas une situation très compliquée à ses concitoyens. Un pays comme la France, que fait-il dans le cas iranien ?
Eh bien, la meilleure chose, vous voyez, c'était de dire qu'on n'est pas d'accord et surtout de rien faire, parce que ce régime n'était pas très très loin de tomber. Il commençait à être extrêmement fatigué et le peuple commençait à se révolter. Il n'était pas très loin de tomber et la pire chose à faire, c'est d'aller bombarder, parce que là, vous faites une sorte de stress vital dans la population, et à chaque fois, en fait, il y a un retour de la population au nationalisme, au soutien de ce régime, et ça a donné, en fait, au régime, ça l'a solidifié. Vous voyez, il y a un moment, en fait, c'est très compliqué, en fait, cette question, parce qu'il y a, par exemple, des sujets où vous ne pouvez pas laisser faire. C'était le Cambodge avec Phnom Penh et le régime des Khmer Rouges, qui, quand ils ont commencé à tuer énormément de gens et un quart de la population, personne ne s'est plaint que le Vietnam est allé intervenir au Cambodge pour libérer le peuple cambodgien. Vous voyez, mais c'est une question très complexe, parce que vous risquez de faire beaucoup plus de dégâts en général et de solidifier les régimes que vous attaquez. Et surtout, il ne faut pas les attaquer quand les régimes sont imprenables ou très très compliqués à prendre militairement. Parce que l'Iran, vous voyez, par exemple, il ne craint même pas le blocus par les États-Unis du détroit d'Ormuz. C'est ce que pense Trump.
Pourquoi est-ce que l'Iran ne craint pas le fait que, eh bien, sa route d'exportation maritime principale soit bloquée?
Il le craint un peu, parce qu'il aura moins d'argent dans les caisses avec les exportations de pétrole. Il y a quand même des pétroliers qui passent, hein, iraniens. Mais surtout, s'il n'a pas d'argent en caisse, factuellement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'il n'arrive plus à vendre de pétrole. Mais on peut parier que la Chine va soutenir l'Iran, financièrement, très clairement, comme elle le soutient militairement en lui donnant les images radar des cibles américaines, ce qui a permis aux missiles iraniens d'être très forts, parce que la Chine ne veut pas que l'Iran tombe et que son approvisionnement en pétrole dépende uniquement des États-Unis, avec le Golfe Persique, le Venezuela, Canal du Panama, Détroit du Malacca. Voilà, c'est un fait, quoi. Vous voyez, je le dis de façon complètement neutre. L'Iran ne craint pas une aversion au sol des États-Unis non plus, parce que factuellement, ils ont des milliers de missiles sol-air pour abattre des avions, des bateaux, les drones aussi, et ils ont une armée d'un million d'hommes qui, dans les montagnes, qui attendent dans un paysage montagneux, très difficile, qui attendent les Américains. Donc une invasion au sol américaine serait une catastrophe. Ce qu'il faut reconnaître et ce qu'il faut comprendre factuellement avant d'en faire des questions de morale et de réfléchir à une stratégie française, c'est que l'Iran et la Chine sont maintenant à un niveau de puissance tel, en fait, qu'ils sont capables de tenir en échec les Américains. Les Américains peuvent plus agir comme s'ils étaient les maîtres du monde. C'est difficile à accepter pour eux. Le monde est maintenant multipolaire, c'est un fait. L'Occident, la France doivent l'accepter plutôt que de nier la réalité. Parce que vous voyez, Alexandre de Galzin, quand vous niez la réalité, vous prenez un mur, le mur de la réalité. À partir de ça, on peut réfléchir à quel est le meilleur positionnement de la France là-dedans.
Alors justement, et dans un monde multipolaire, comment est-ce que doit se positionner la France? Vous voyez, on observe que dans toute l'Europe, eh bien, le Trumpisme a cet avantage que, eh bien, il révèle finalement que les États-Unis effectivement ne veulent pas de le bien de l'Europe et ne veulent pas le bien des pays européens plus particulièrement. On révèle aussi la relation de, eh bien, de vassal à suzerain qui s'est mise en place ces dernières décennies. Bon, on aurait pu le voir avant sous Obama, sous Biden ou sous d'autres. Trump arrive, tant mieux si on finit par le voir aujourd'hui. D'un autre côté, on voit que même les dirigeants eh bien, de droite, comme par exemple Giorgia Meloni, ou même des personnalités comme Alice Weidel de l'AFD, Marine Le Pen en France, des personnalités de droite, constatent que eh bien, Donald Trump et Jill Biden, ce sont des personnages quelque peu toxiques sur le plan et qui vaut presque mieux ne pas être dans leur camp pour remporter des élections en interne. Il y a une vraie séparation entre les deux rives de l'Atlantique. À ce moment-là, que doit faire l'Europe et que doit faire la France dans ce contexte de division du bloc occidental?
Il y a une division, après, qui est temporaire. Après, les Américains ne sont pas nos ennemis non plus. Mais c'est vrai que Trump s'était présenté comme un représentant de la nation américaine, de l'Amérique d'abord, et plus maître du monde, effectivement, il est revenu à la logique américaine qui est de vouloir être hégémonique sur le monde alors qu'ils n'en ont plus les moyens. C'est ce que l'on voit factuellement. La France, si vous voulez, elle doit se rappeler ce qu'elle est dans son histoire. Elle ne s'aligne pas sur les empires et elle est une puissance d'équilibre et de paix. Vous comprenez ? Pas une puissance pour les bisounours. Elle doit être une puissance avec une armée forte, avec une dissuasion nucléaire. Le monde multipolaire, en fait, c'est une chance. C'est une chance multipolaire de nations libres et souveraines parce que la France pourra naviguer entre les différents empires. Elle pourra jouer avec les différents empires et elle ne sera plus dépendante d'un seul empire. Parce que quand il n'y a qu'un seul empire comme les États-Unis, c'est très compliqué d'y résister. Le général de Gaulle l'a réussi avec beaucoup de manigances américaines contre lui, mais il a réussi, mais c'est très complexe. En revanche, quand vous avez plusieurs puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, et que le monde est ouvert, là, c'est beaucoup plus simple. Vous savez, la France a la force de dissuasion nucléaire. Donc de toute manière, elle a quand même un moyen de ne pas se faire envahir, muscler son armée, muscler sa puissance économique au sens large et militaire. Voilà la meilleure chose à faire.
Et alors, justement, se muscler, mais quelque part, on a l'impression que le projet que vous donnez à cette France musclée, c'est d'être une Suisse au niveau international. C'est-à-dire, finalement, essayer de jouer un petit peu l'équilibre entre tout le monde. À ce moment-là, quelle est l'utilité d'avoir une armée forte, même si c'est pour n'être qu'une Suisse sur le plan international ?
Je n'ai pas dit d'être une Suisse et d'être neutre. Hein. La France n'est pas neutre, mais la France ne doit pas s'engager dans des conflits qui n'ont aucun intérêt, qui sont perdus d'avance en plus, et qui en plus sont l'agression d'un pays tiers, par exemple. Ça, ce n'est pas la logique de la France. La France de Gaulle a été respectée pourquoi ? Parce qu'elle avait une puissance militaire, parce qu'elle avait surtout une parole qui portait. Elle ne dépendait pas de l'Empire américain, et donc elle avait une parole qui portait, elle pouvait résoudre des conflits, elle était écoutée dans le monde. Regardez la démultiplication de la puissance russe, par exemple. Factuellement, hein, je ne suis pas un admirateur de Poutine. C'est un pays de 140 millions d'habitants. C'est un pays qui est juste deux fois plus grand que la France. C'est la France et l'Allemagne réussies. Et la Russie, par le fait qu'elle a cette puissance militaire, par le fait qu'elle a une parole relativement juste, en fait, envers le monde entier, on n'est pas dans des médias macronistes, donc on peut dire les choses, qu'elle aide ses amis à chaque fois qu'ils en ont besoin.
Pardon, bien, alors Philippe,
Philippe
Mirer, là-dessus, justement, la puissance russe, au contraire, est encore une fois, je rappelle, en arrêt déjà en Ukraine, alors qu'ils pensaient prendre le pays en trois jours. Ukraine, qui est un pays sensiblement plus petit. Deuxième plan, sur le fait qu'ils aident leurs alliés, bah, en fait, on voit justement que la situation géorgienne ou arménienne montre montrent qu'ils n'aident pas particulièrement leurs alliés. Je parle pas de la Syrie de Bachar el-Assad où pareil, ils ont laissé quelque part tomber Bachar el-Assad quand Ahmed al-Shara est arrivé. Idem pour l'Iran où il y a eu de vagues communications entre l'Iran et la Russie, de vagues partages, mais en tout cas il n'y a pas eu, disons, d'alignement strict de la Russie sur les intérêts iraniens. Au contraire, la Russie, je dirais, enfin, c'est pas nécessairement une puissance qui est, disons, en croissance. On voit plutôt une puissance qui lutte pour sa survie et qui lutte pour éviter, en tout cas, pas pour sa survie, mais qui lutte au moins pour éviter le déclin.
Alors moi, je pense qu'au niveau diplomatique, la Russie a beaucoup de puissance, hein, très clairement. Est-ce qu'elle, la chose qu'il y a à voir aussi, c'est que par rapport à l'Iran, est-ce qu'elle avait envie de faire une guerre chaude contre les États-Unis en allant fournir un maximum d'armes à l'Iran ? Peut-être pas exagéré. Il y a une question de prudence aussi, d'éviter que le monde s'enflamme. Et moi, je suis très content que la Chine et la Russie, qui sont des alliés de l'Iran depuis très longtemps, n'aillent pas fournir faire une guerre chaude contre les États-Unis en Iran. Sur la Syrie, en fait, c'est quand même la Syrie. Je rappelle que la Russie, c'est eux qui ont éliminé Daesh. C'est eux qui ont éliminé l'État islamique en Syrie, avec Trump qui a laissé la main, et ça c'était la bonne en fait, diplomatie de Trump, qui a laissé la main sur le territoire syrien aux Russes, et qui les a permis de soutenir le régime en place, qu'on ne pouvait ne pas aimer, bien sûr, Bachar el-Assad. Mais c'est beaucoup mieux que Daesh. Effectivement, il y a eu tellement d'erreurs de Bachar el-Assad, il n'arrivait plus à tenir le pays, qu'à la fin, il y avait une poussée conjointe d'Israël, de la Turquie, etc. Et à la fin, c'est l'ex de Daesh, c'est-à-dire Al-Joulani, qui a pris le contrôle de la Syrie. Moi, je ne m'en réjouis pas. Mais vous savez, c'est compliqué à naviguer dans le monde d'aujourd'hui pour toutes les puissances. C'est compliqué, il ne faut pas être simpliste. Et la France devra effectivement naviguer, regarder les conflits, essayer d'apaiser les tensions plutôt que les aiguiser. Parce que vous voyez, la guerre, c'est ce qu'il y a de pire. La guerre, c'est ce qui ruine les peuples, en fait. La guerre en Ukraine, elle a coûté très très cher, et nous aurions dû faire en sorte, nous, France, vous voyez, que cette guerre n'advienne jamais. Et une France respectée comme la France de De Gaulle aurait fait qu'elle n'arrive pas. Vous savez, même Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez la Géorgie, la crise en Géorgie entre la Géorgie et la Russie.
Oui.
Nicolas Sarkozy avait été parti en Géorgie, était parti discuter avec les Russes et avait stoppé cette guerre. Je ne suis pas du tout un fan de Sarkozy, mais disons-le clairement, il avait stoppé la guerre entre la Géorgie et la Russie et tout s'était bien passé. Ben moi, c'est cette France-là que je veux. Cette France-là. Et effectivement, la guerre, on l'a fait uniquement quand il n'y a pas d'autre possibilité, parce que la guerre, c'est dévastateur. Même la guerre à distance en Ukraine a fait très très mal à l'économie française, aux entreprises françaises. La guerre en Iran est en train de faire très très mal à l'économie française et à l'économie mondiale en général.
Philippe Meurat, vous faites une parfaite transition parce que c'est un autre sujet que je voulais aborder désormais. Bon, maintenant, et on est devant le fait accompli, c'est-à-dire que forcément, eh bien, il y a eu ce début de conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui s'est enflammé d'ailleurs à tout le Moyen-Orient en général. Évidemment, une crise économique s'ensuit qui est notamment liée au blocage du détroit d'Ormuz, mais pas uniquement, mais en tout cas en bonne partie aussi. La France, l'Europe se retrouvent devant une crise économique d'ampleur qui commence déjà à nous frapper, ne serait-ce que sur les prix du carburant. Mais enfin, on parle de l'inflation alimentaire, on parle d'inflation dans bien des domaines. Concrètement, comment on réagit maintenant ?
Alors, comment on réagit ? En fait, qu'est-ce que ferait un gouvernement sérieux ? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que ferait un gouvernement sérieux ? Bah, des baisses de taxes sur l'essence, très clairement, et le carburant pour tenir le choc pour tous. Et je ne suis pas démagogiste, hein, j'aime pas balancer l'argent de l'État, dire qu'il faut balancer l'argent de l'État. Parce que si vous détruisez des entreprises, des milliers d'entreprises, eh bien, vous allez être encore plus affaibli en sortie de crise, ça vous coûtera plus cher. Baisse des taxes sur l'essence. Sortie du marché européen de l'électricité. Ça vous permet de diviser par deux les prix de l'électricité. Donc, ce que vous perdez, les entreprises sur l'essence et les ménages, vous le regagnez sur l'électricité. On produit à 6 centimes par le nucléaire. On est capable de vendre à 11 ou 12 centimes, comme il y a 10 ans. Or, on vend aujourd'hui à 24 centimes. Vous divisez par deux les prix de l'électricité pour soulager ménages et entreprises. Et surtout, vous allez négocier avec la Russie pour avoir du gaz et du pétrole russe à des prix très raisonnables, parce qu'on ne peut pas se couper de toute l'énergie mondiale, être coupé du Moyen-Orient, être coupé de la Russie. Quand la Russie, c'était l'URSS en pleine guerre froide, en fait, la Russie fournissait du gaz et du pétrole à l'Occident, et l'Occident achetait le gaz et le pétrole russe. Il faut négocier la reprise des achats de gaz et de pétrole russe, tout simplement dans l'intérêt des Français. Et puis, à plus long terme, supprimer les lois Nicolas Hulot, exploiter le pétrole et le gaz qu'il y a très probablement Guyane, puisque les voisins pompent du pétrole dans cette poche, une autonomie énergétique pour la France, et donc l'électrification, oui, c'est pas une mauvaise idée, mais pour électrifier, ben, il faut des tarifs d'électricité deux fois moins chers. Les gens, déjà, naturellement, s'électrifient, et vous mettez en avant les filières électriques, mais il faut un plan long terme, c'est-à-dire que l'électrification, ça passe par des voitures électriques françaises, européennes et au moins françaises, et des pompes à chaleur françaises. Voilà. Donc, il faut du protectionnisme pour qu'on ne passe pas d'une dépendance au pétrole et aux énergies fossiles sur le long terme à une dépendance aux technologies et aux voitures achetées en Chine. Or, qu'est-ce qu'on voit comme réponse ? La réponse du gouvernement français, il y a quasiment quelques petites baisses de taxes. Mais vous voyez, le gazole non routier qui affecte les agriculteurs, notamment les pêcheurs, il est passé de 1,30 à 2,10. Qu'a proposé le gouvernement ? Au départ, aux agriculteurs, c'était 4 centimes de baisse de taxes. Maintenant, on est à 15 centimes. C'est évidemment pas suffisant. Qu'ont-ils proposé aux pêcheurs ? 20 centimes de baisse de taxes, les bateaux restent à quai. Donc, on voit qu'on a une réponse, mais complètement insuffisante, un État complètement anémique et qui est incapable, dans cette situation de crise, de sauver son économie et ses entreprises.
Alors, justement, pour cette question économique, beaucoup disent que, déjà, baisser les taxes sur le carburant, c'est une grande perte de recettes pour l'État. Ce que vous proposez, en réalité, c'est effectivement baisser les taxes sur le carburant, donc une perte de recettes pour l'État, diviser le prix de l'électricité par deux en sortant du marché européen, ce qui baisse la facture des Français, mais ce qui baisse pas non plus la facture de l'État. En réalité, on se retrouve quand même avec un grand manque à gagner, surtout qu'on est quand même dans un contexte où, encore une fois, le déficit est autour de 5%, ce qui est évidemment particulièrement préoccupant. Qui ne laisse que peu de marge de manœuvre, on a l'impression.
Voilà. Quelques milliards d'euros pour avoir des baisses de taxes et tenir les entreprises, vous y gagnez à moyen terme, vous savez. Vous y gagnez à moyen terme, très clairement. Après, on ne va pas se lancer dans ce débat, mais vous savez, la dette de l'État, c'est embêtant. C'est embêtant qu'on ait des gens qui sont très mal gérés, mais elle est la résultante de l'appauvrissement économique de la France, et non l'inverse. La dette de l'État, elle est très très forte aussi aux États-Unis, 125% du PIB, avec un déficit à 6-7%. Elle est très forte en Pologne, 6-7% de déficit, en Hongrie. En fait, tout l'affaiblissement économique qu'il y a, l'appauvrissement économique par le modèle économique qui est très mauvais, a créé de la dette de l'État. Et on sait gérer ça. Vous savez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France est détruite, elle a une dette publique de 200% du PIB. En 25 ans, la dette publique passe à 7% du PIB. Et pourtant, on crée la sécurité sociale, toutes les grandes infrastructures qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut changer complètement de modèle économique. Mais là, on rentre dans des discussions qui prendraient beaucoup de temps pour l'expliquer.
Oui, alors il nous reste 2 minutes avant le début de la chronique d'Arthur de Vatrigo. Après, on vous retrouvera avec lui, hein, bien sûr. Mais autre question, donc on a abordé ce plan diplomatique, on a abordé un petit peu ce plan économique aussi. Simplement, ce n'est pas non plus les seules conséquences qui arrivent de cette guerre en Iran. On voit que justement... Eh bien, il y a un nouveau type de guerre qui est en train de se mettre en place et que, justement, on se demande si la France est vraiment prête pour le nouveau genre de conflit qui risque d'arriver sur les décennies à venir qu'on a pu observer en Ukraine et qu'on observe maintenant en Iran.
Vous voulez parler des problématiques que posent toutes les armes nouvelles.
Oui, exactement. Oui.
Ouais, et les armes avec intelligence artificielle. C'est vrai que la France doit s'y préparer parce qu'elle est mal préparée, doit effectivement aller à fond. Peut-être pas dans le SCAF, l'avion du futur, et encore plus franco-allemand, mais pour développer sa puissance de drone, parce que, et d'armes à intelligence artificielle, qui pose tout un tas de problèmes, mais ce qui est certain, ça montre que même les plus grandes puissances, en fait, des petites puissances comme les outils, peuvent empêcher la navigation en mer rouge. Avant, c'était pas possible, ce genre de choses. Effectivement, c'est quelque chose qui est en train de poser un problème, de changer complètement la façon de faire la guerre, parce qu'elle donne aux faibles, en fait, une façon de désorganiser même les puissants. Donc, il faut le prendre en compte. Il faut travailler à fond sur les drones, sur les armes anti-drones. Mais ne nous l'aurons pas. En fait, il y a un changement majeur de faire la guerre qui implique, pour le moment, une forme de blocage pour les grandes puissances pour tenir le monde, quoi. Très clairement, face à des puissances faibles qui peuvent tout désorganiser.
Philippe Murer, vous restez avec nous. Simplement, on va recevoir Arthur de Vatrigan tout de suite, et bien dans le but de écouter sa chronique hebdomadaire ici sur Ligne Droite, et puis un peu après, ce sera le face-à-face.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors Arthur de Vatrigan a disparu, il est en réapparition, en réanimation sans doute. Voilà. Arthur de Vatrigan, vous êtes bien avec nous ce matin, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect, on vous écoute.
Bonjour Alexandre, je vais vous parler de Donald Trump.
Ah.
Parce que ferait-on, nous journalistes, sans Donald Trump ? Il ne se passe pas une journée sans que le président américain offre une sortie dont il a le secret, et la presse sous perfusion de flux continu et comme un cocaïné en manque, elle en redemande. Et en plus, lui, il est content. Il aime ça. Alors, on joue les mages, on prophétise, on affirme, on essaie d'analyser, on psychanalyse aussi. Mais une fois, il est timbré, une autre, il est génial, encore une autre, il va s'effondrer, puis finalement, non. Trump, c'est le roi du non-événement de l'événement. Il emballe, il excite, qu'importe qu'il dise tout et son contraire d'une heure à l'autre. Alors on a eu la séquence Ukraine, puis Groenland, à peine achève une séquence, qu'il en ouvre une autre, et même plusieurs à la fois. Et c'est, je vous confine, une analyse très fine d'Ophélie Rock dans la revue Conflit, au sujet de Donald Trump. Pour résumer, elle dit que Donald Trump, donc c'est pas un homme politique classique, si on l'avait compris. C'est pas un homme de programme, c'est pas un homme de doctrine, de cohérence, où on l'entend, nous, journalistes français, c'est un acteur de la puissance verbale. Donc sa parole, elle n'est pas faite pour décrire le réel, elle est faite pour saturer l'espace, pour produire un effet, pour occuper les esprits en même temps. Et chez lui, la déclaration, c'est pas une promesse mesurable, c'est une performance rhétorique. Et pourtant, malgré ça, on continue à essayer d'analyser et de juger Trump avec les instruments ordinaires de la politique ordinaire. Alors, il faut se souvenir, c'est qu'en 2016, lors de sa première campagne, il s'était doté d'un outil assez efficace qui lui permettait de tester. C'est-à-dire qu'il avait trois états-tests qui se répartissaient en gros entre un état acquis pour lui et un état qui pouvait basculer pour lui. Et le matin, il faisait une déclaration à la Trump, provocatrice, brutale, vulgaire. Et puis toute la journée, cet outil lui permettait de mesurer la réaction dans ses états-tests. Et si cette réaction était positive, bah le soir, il surenchérissait. Et si la réaction était négative, eh ben, il faisait un pas de côté, il la ralentissait, ou il effaçait, comme il a effacé son image où il se prenait pour le Christ. Ou carrément, il disait le contraire. C'est toujours été comme ça, Trump. C'est-à-dire qu'il ne parle pas pour être fidèle à sa phrase précédente, il parle pour voir ce que va produire la suivante. Alors aujourd'hui, le mécanisme est le même, bon, sauf que ce n'est plus un candidat, c'est un président. Donc forcément, bah, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que déjà la parole a un effet immédiat, et puis un effet immédiat pas que dans les États-tests, pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier. Donc un candidat peut faire scandale, un président, lui, peut faire tanguer les marchés, déplacer les alliances, inquiéter les chancelleries, et jusqu'à faire grimper le prix à la pompe jusque dans le fin fond de la Creuse. Donc c'est pourquoi on dit souvent, c'est là aujourd'hui, il ne teste pas quand il parle ou quand il fait une déclaration, sa cote de popularité, mais les marchés financiers. C'est un peu le problème de la méthode du battleur qui s'applique désormais avec la puissance de feu impérial. Battleur et empereur, c'est compliqué. Alors oui, Trump est hyper fluctuant. Il varie, il sonde, il recule, il revient. Et c'est pourquoi il ressemble assez à un bitcoin. C'est-à-dire qu'il est extrêmement nerveux à court terme, mais peut-être que sur une trajectoire avec un peu plus de long terme, sur un an, deux ans, bah peut-être qu'on verra une trajectoire plus lisible, qu'elle soit en augmentation ou en chute libre. Vous savez, le vrai sujet, ce n'est pas les secousses, c'est la direction, comme tous les marchés. Mais là, depuis quelque temps, il y a un caillou qui s'est glissé dans la godasse et qui s'appelle l'Iran. Et l'Iran, c'est quand même autre chose que le Venezuela. C'est-à-dire 40 ans de régime totalitaire, ça ne se dégage pas à coups de pompe. Mmh. Et ça commence à ressembler furieusement et de plus en plus à un bourbier. Alors, on est quand même à la quatrième guerre du Golfe, hein, que personne n'a réussi à vraiment terminer, en tout cas les trois premières, surtout pas les Américains. Que les Américains, ils excellent pour ouvrir les fronts, pour les refermer, là, c'est quand même autre chose. Et puis, le souci, c'est qu'il a les 60 jours où le Congrès peut se positionner sur l'arrêt ou la continuité de la guerre, et puis il a les élections à mi-terme, les élections à mi-mandat qui arrivent à l'automne. Et donc, c'est là que ça coince, quoi. Parce que si les promesses ne sont pas tenues, ciao, pantin. D'autant que Trump a été élu avec une double stratégie. La première, en 2016, c'est le populiste Bannon. Mais la deuxième, 2022, c'est le renversement et le remplacement des élites.
2024, oui.
Et
oui,
pour
oui.
gouverner... Et... Comment ?
2024, simplement. Mais oui, je vous en
2024, non, 2022, c'est chez nous.
Oui.
Non, 2022, c'est en France. Donc, on est toujours en regard ultra-français. Non, 2024. Et donc, première élection, c'est la stratégie populiste à la Bannon. Deuxième élection, c'est on garde la direction populiste de Bannon, mais on fait une stratégie élitaire, on veut remplacer les élites. Et là, le problème des élites, c'est qu'il y en a un peu partout. Et donc, s'il a réussi à faire, et ce pourquoi il a gagné, et ce pourquoi il gagne avec un pouvoir très fort aujourd'hui en tant que président, bah, c'est qu'il a réussi à réunir autour de lui un mélange de courants qui vont des post-libéraux à la Paramount Institute, en passant par la Lumière Sombre et l'Heritage Foundation. Donc, c'est une coalition très large. Ça gagne, mais c'est casse-gueule pour gouverner. Parce qu'à force de rassembler tout le monde contre l'ordre ancien, ou contre le futur progressiste que tout le monde nous vendait, bah, on finit aussi par ouvrir plusieurs fronts dans son camp. Et la guerre en Iran est assez révélateur, si vous regardez ce que pensent, en gros, ces quatre courants qui représentent les quatre courants d'élite de Trump. L'Heritage Foundation bah, supporte très mal qu'il soit, comme ils disent, dans la main de Netanyahou. Les post-libéraux, eux, alors ils n'ont vraiment pas pu blairer les sorties complètement lunaires de Donald Trump sur Léon XIV. La Claremont Institute pense déjà à l'après-Trump. Et quant aux Lumières Sombres, alors ils sont un peu moins critiques sur la guerre en Iran. En revanche, sur la politique intérieure, bah, ils citent quand même Saint-Just pour taper sur le président. Ceux qui font leur évolution à moitié n'ont fait que creuser un tombeau. Donc c'est un peu le merdier chez lui. Et alors c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi comprendre Trump, c'est qu'il n'est pas dingue, évidemment, au sens où ses adversaires aiment le dire. Alors peut-être qu'on découvrira dans deux ans qu'il était aussi sénile que Biden, mais bon, on va éviter les psychanalyses. Il n'est pas non plus un stratège infaillible, comme le croient les fidèles, ça c'est sûr. C'est, en tout cas, ce dont on est certain, c'est que c'est un homme qui a fait l'excès verbal, une technique de commandement. Donc il se sait bouffon, et c'est ainsi qu'il se jouera. Le problème, c'est que les bouffons et les rois meurent. Il y en a un qui reste dans l'histoire et les autres qui disparaissent.
Eh bien, merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Et tout de suite, on va passer au face-à-face. Mais avant, je tiens... Oui, non, si, qu'est-ce que je... Là, il y a la technique, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je souhaite rappeler à nos auditeurs eh bien, qu'ils peuvent faire un don sur Radio Courtoisie. Voilà, pour ceux qui nous rejoindraient, Ligne Droite a besoin de vos dons, a besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Peu importe combien, nous serons heureux. Et à côté de ça, vous pouvez envoyer vos chèques au 61 Boulevard Murat, 75-016 Paris, c'est bien ça ?
Vous mettez au chômage technique, mon cher Alexandre ?
Oui, c'est ça, la technique au chômage technique. Non, mais effectivement, voilà, ça reste très important. Mais si vous voulez ajouter un mot, allez-y, Arnaud.
Non, effectivement, vous avez tout dit. Soutenir.rc.fr pour tous vos dons en ligne et par la poste, vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75-016 Paris. Votre soutien financier est primordial.
Voilà, et nous passons au face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Philippe Murer, vous avez écouté la chronique d'Arthur de Vatrigan qui n'est pas sur un sujet extrêmement éloigné de celui dont on parlait tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous partagez son analyse justement sur la méthode Trump et justement sur les. Pour comprendre quelque part les États-Unis, il faut aussi comprendre. Quel est l'électorat Trump ? Quels sont les courants qui traversent le trumpisme ? Est-ce que vous partagez l'analyse d'Arthur de Vatrigan ?
Oui, il y a différents courants, mais il y avait quand même le « Make America Great Again », c'est-à-dire qui était quand même le courant principal. Et la logique de Trump, c'était quand même de dire « l'Amérique d'abord, les Américains d'abord, et on arrête de faire des guerres partout ». Or, moi, ce que je regrette très clairement, parce que je trouvais que c'était quand même une approche intéressante d'avoir des États-Unis à nouveau pacifistes et qui s'occupaient de son peuple. J'aimerais bien qu'on fasse ceci en France. Le problème, c'est qu'il a mis toute sa base MAGA contre lui. On a Tucker Carlson, Megyn Kelly, Marjorie Taylor Greene qui a carrément démissionné. Et il n'a tenu aucune de ses promesses, non seulement d'arrêter la guerre, de dévoiler les fichiers Epstein ou JFK et de s'occuper des Américains avant. Et ce qu'on voit, et moi ce que je crains, c'est qu'en face, on a quand même des démocrates qui sont comme wokistes, qui sont quand même assez dangereux, en tout cas, je pense, pour notre civilisation, qui risquent de gagner les mid-terms. là, dans la circonscription de Marjorie Taylor Greene, où elle a démissionné, elle avait fait 75% et les démocrates 25%. Nouvelle élection il y a peu de temps, les démocrates font 45%. Ils progressent partout, ils risquent d'emporter les midterms et donc, dans ce cas-là, d'emporter peut-être d'ailleurs aussi, après les midterms, les nouvelles élections, plutôt que ce soit un G20. Je le regrette franchement profondément parce que je ne pense pas que l'effet des démocrates américains soit une bonne chose pour les États-Unis, mais surtout pour l'Europe.
Arthur de Vatrigan, justement, sur cette possibilité, eh bien, que Donald Trump perde les midterms à cause de sa politique internationale, vous y croyez ?
Alors déjà, il faut juste rappeler que tous les présidents américains élus ont perdu les midterms. Tous. Donc, si Trump gagne les midterms, ce serait une première et une surprise. Donc déjà, c'est la première information. C'est-à-dire s'il les perd, il ne faudra pas dire « Regardez, c'est bien la preuve que non. » Tous les Américains, tous les présidents américains, ils ont perdu. Ensuite, le seul jugement qui compte... Alors nous, on a, du point de vue européen, on met des priorités qui ne sont pas forcément celles de l'électorat américain. On parle de la guerre en Iran, on va parler du Groenland, on va parler, en effet, des Epstein Files, on va parler de Kennedy, on va parler de plein de choses. Mais la base américaine, encore une fois, qui a élu Trump en 2016, qui l'a réélu ensuite en 2024, c'était les hillbillies, les poucs des Appalaches, faire vite. Et donc la première raison, elle était économique. Elle était comment, en fait, on retrouve simplement du pouvoir d'achat, comment on ne crève pas la dalle et comment on essaye de, éventuellement, proposer un modèle différent que ceux vendus par les Américains depuis le départ. C'est-à-dire, si Trump n'a pas été élu avec la base des républicains, et s'il y a une évolution, c'est parce que la droite américaine ne répondait plus aux demandes de ces hillbillies. Donc la première, le seul jugement va être là-dessus, va être d'un point de vue économique. Et c'est pourquoi la guerre en Iran a un impact, non pas qu'une guerre prolongée effraie les Américains ou que des soldats meurent, ils peuvent toujours raconter une histoire, mythifier, ils ont toujours suffire ça. Ce qui compte, c'est les conséquences économiques de cette guerre, parce que des conséquences qui vont directement impacter les Américains. Le America Great Again, c'est moi d'abord, mais moi d'abord dans mon portefeuille, c'est moi d'abord dans ma vie de tous les jours. C'est ça le principe. Et donc, si le seul juge de paix là-dessus sera ça. Et on voit que dans le programme économique, dans les conséquences économiques américaines aujourd'hui, toutes les belles promesses de Donald Trump, notamment aussi celles de J.D. Vance, parce qu'il ne faut pas oublier que J.D. Vance, quand il était sénateur de l'Ohio, le type, il prenait position pour les syndicats contre les grandes entreprises également. Finalement, il n'y a pas eu cette révolution, cette contre-révolution trumpienne, comme on l'appelle, qui est aussi une contre-révolution économique, c'est aussi un changement de paradigme. Bon, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de changement de rapport au business. C'est-à-dire, si vous regardez, les grands patrons, et dans les magas, il y en a évidemment, ils n'ont pas changé de logique, ils ont juste changé de camp. Or, Trump 2016, Trump 2024 proposaient aussi un changement de paradigme. Donc, il y a le changement, la vision, et puis après, les conséquences directes. Alors, je ne suis pas un expert de l'Amérique, je ne regarde pas les marchés financiers américains toute la journée, et je ne peux pas vous dire le taux d'endettement ou le taux de gain ou de tous les taux que vous voulez qui permettent de juger la politique américaine. De ce que j'ai comme retour des contacts américains que j'ai, alors qui sont peut-être biaisés parce qu'essentiellement des postes libéraux, mais je me suis entretenu avec deux ou trois acteurs des Lumières Sombres également ce mois-ci, plus la Claremont Institute, plus l'Heritage Foundation. Bon, globalement, le bilan n'est pas très bon.
C'est clair, le bilan n'est pas très bon parce que, en fait, aux États-Unis, on a une économie en K. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est ce que disent tous les marchés financiers, Wall Street, etc. C'est que les riches gagnent beaucoup d'argent et, en fait, voient une augmentation de leur richesse et de leur riche et de leur salaire, de leurs dividendes, pendant que les pauvres, c'est-à-dire deux tiers, trois quarts de la population américaine, voient une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas avoir une économie comme ça qui se dissociait. Elle se dissociait déjà avec Joe Biden. Le problème, c'est que Trump avait promis pour le ménage américain moyen qu'il allait gagner et il est en train d'y perdre aussi. Il est en train, évidemment, d'y perdre parce que les prix de l'essence monte très fortement et que les prix de l'énergie, les Américains consomment beaucoup d'énergie. Oui. Et effectivement, c'est un problème pour son pouvoir d'achat. Je reviens quand même sur une chose, deux choses importantes. Il n'y a que 30% des Américains, 27% qui sont favorables à cette guerre. Donc, on n'a jamais eu une population américaine aussi peu favorable à une guerre. C'est là où Trump prend des risques. Et OK, les présidents américains perdent parfois les midterms, très souvent les midterms. Mais ceci dit, ils gardent une majorité, par exemple, pour gouverner. Là, le problème, c'est qu'il n'aurait Trump risque de ne plus avoir de majorité pour gouverner, ni à la Chambre des représentants, ni au Sénat. Et ça serait dommage parce que ça serait, d'une certaine façon, la fin du mandat Trump. Ça serait des États-Unis complètement paralysés. Et moi, ce qui m'embête, oui, c'est le retour du wokisme possible avec des démocrates qui peuvent reprendre la main pour dans deux ans, alors qu'en fait, JD Vance était quasiment sûr de gagner avant cette guerre en Iran. Quel désastre, quoi. Quel dégât pour le camp républicain et quel danger, parce qu'avec les démocrates, c'est les Soros qui interviennent en Europe qui auront plus de marge de manœuvre.
Justement, j'allais y venir, c'est-à-dire que il y a évidemment, hein, une des raisons pour lesquelles on parle autant de Donald Trump et des États-Unis aussi à cette antenne à Ligne Droite, c'est parce que forcément Donald Trump, quand il est arrivé, eh bien il s'est posé un petit peu en patron de la droite occidentale, il faut le dire. Vous évoquiez justement Arthur de Vatrigan, toute cette coalition autour de Donald Trump, mais vous évoquiez même le Claremont Institute, il y en a d'autres, hein. Il y a l'America First Foundation, il y a par exemple le CPAC, donc le Conservative Action, enfin voilà, il y a également des instituts hongrois qui ont été financés par des Américains Trumpistes, à côté de ça on peut penser à Turning Point USA, donc évidemment de Charlie Kirk, donc il y avait quand même cette idée que Donald Trump allait devenir le patron de la droite occidentale. Est-ce que une défaite de Trump chez lui pourrait avoir des conséquences négatives pour les, on va dire, les patriotes en Europe, selon vous, Arthur de Vatrigan?
Compliqué de répondre parce que je suis pas prophète. En tout cas, chaque action et chaque parole américaine a des conséquences et un impact dans tout l'Occident. Je le déplore, mais c'est ainsi. Le problème, c'est que Trump sert d'épouvantail aussi aux adversaires du camp dit national. Qu'il réussisse ou qu'il perde, il sert toujours d'épouvantail. Alors vous allez me dire, s'il perd, les autres diront, regardez, c'est bien la preuve que le Trumpisme ne marche pas. Bon, après, je ne sais pas si beaucoup ont vu dans Trump un leader du camp national, étant donné que, comme rappelé votre invité, il a immédiatement dit « America first ».
Oui, mais vous avez bien vu Arthur de Vatrigan, par exemple, Giorgia Meloni, Viktor Orban, les mêmes en Pologne, ou Jordan Bardella, qui a une position un petit peu ambiguë là-dessus, mais tous ces dirigeants politiques européens qui se sont mis un petit peu assez rapidement dans la roue de Donald Trump en essayant de s'attirer ses faveurs.
Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, quand vous mettez dans la roue de Donald Trump, vous bouffez un peu de sa lumière. Donc, le principe aussi, c'est de l'exposition, si de peser. Ensuite, on se met dans la roue de Donald Trump, non pas que par idéologie, mais parce qu'il est puissant. Et que quand vous engagez un rapport de force avec les États-Unis, comme c'est le cas de l'Union européenne ou comme c'est le cas d'autres pays, il y a quand même peu de chances que l'Union européenne gagne face aux États-Unis, étant donné que déjà l'Union européenne est divisée, mais ensuite les États-Unis, malheureusement, sont plus puissants et maîtrisent beaucoup plus de choses. Donc à partir du moment où vous mettez dans sa roue, bah vous pensez peser plus. C'est pour une question de rapport de force. C'est pas Trump qui vous remplace en tant que porte-parole, étant donné que j'espère qu'on veut choisir autre chose comme porte-parole que Trump. Et parce qu'encore une fois, c'est les Américains d'abord. Les Américains d'abord, et ça peut dire aussi pour d'abord nous, on vous marche dessus. Bon, ça c'est quand même quelque chose d'important. En réalité, j'ai oublié ce que je voulais dire au début.
Ah bah d'accord.
Mais oui, mais ça, c'est vous aussi, vous m'écoutez, hein, forcément. Excusez-moi. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est les courants et l'élite. Parce que Trump a montré une chose, c'est que la politique pouvait gagner. Et donc là où il a redonné un élan à un camp national occidental qui soit français et autres, c'est qu'il a montré que la politique était une question de volonté et qu'on pouvait. Parce que depuis des années, on nous dit non, on ne peut pas, à cause de ci, à cause de ça. Lui, il a montré qu'on pouvait. Ensuite, il a montré une stratégie intéressante pour avoir tous les pouvoirs, c'est la stratégie des élites. Parce que vous pouvez reprendre le pouvoir à coup de jacquerie ou faire une stratégie purement populiste. Si vous ne tenez pas les institutions de pouvoir, qu'elles soient légitimes ou illégitimes, ça ne sert à rien. On l'a déjà vu plein de fois. C'est si la droite gouverne à gauche depuis qu'elle est élue, c'est parce qu'elle, déjà parce qu'elle a peu de, une colonne vertébrale en scoliose.
Alors, je me permets un truc dans un triangle. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que là, vous vous trompez forcément. Déjà, vous vous trompez sur le terme élite. Est-ce que vous avez vu des élites gouverner la France aujourd'hui depuis 40 ans? De moins en moins. C'est pas des élites, et en plus, ils sont mauvais, et en plus, ils sont corrompus. Première chose. Donc, les élites, elles ne sont pas à chercher dans les institutions qu'on a aujourd'hui. Quand vous voyez un Richard Ferrand, qui était en troisième division du Parti Socialiste, et corrompu, devenir le patron du Conseil constitutionnel, c'est pas des élites. Il y a une manière, la seule manière de gouverner, c'est pas en tenant les institutions comme ça, et en allant faire des compromis avec des élites, d'ailleurs, plus ou moins socialistes, de gauche, qui sont reclassées partout. C'est par des référendums. Il faut faire des séries de référendums pour reprendre le pouvoir sur ces élites qui, de toute manière, sinon, lamineront le peuple et ne feront rien de ce que veut le peuple et de ce que veut un gouvernement qui représente le peuple et qui représente la France. Ce sont des élites antinationales. Il faut faire des séries de référendums, voilà, pendant probablement un an pour leur enlever le pouvoir et donner un pouvoir à une nouvelle élite, et non à une caste qui est antinationale, très clairement.
Arthur de Batrion.
Moi, je ne parlais pas de compromis avec les élites. Hein. Je parlais de remplacement des élites. De faire une stratégie élitaire, c'est un remplacement des élites. C'est ce qu'a fait Donald Trump. En France, on est infoutu d'en faire simplement parce que ce n'est pas l'intelligence et la culture qui dominent le camp national, malheureusement. Et ça, on le voit à tous les niveaux.
Désolé, le camp national est à peu près le seul. Le camp national, qui pour moi est le camp souverainiste, hein, parce que quand on est national, on est souverainiste. C'est le seul qui produit vraiment des idées. Et d'ailleurs, si les médias interdisent complètement le camp national depuis 15 ans, en fait, c'est parce qu'ils ont une crainte immense d'affronter le camp national sur les idées. Moi, j'étais chez Marine Le Pen quand Marine Le Pen était vraiment souverainiste. Hein. On passait quasiment jamais dans les médias. Bah,
pardon, Philippe
on
Muret,
avait
non,
des Philippe, quasiment non, aucune émission.
Philippe Muret, mais par exemple, quelle idée a produit le camp national sur ces 30 dernières années?
Sur ces 30 dernières années? Des réflexions sur tous les sujets. Vous voyez, moi, j'ai travaillé, par exemple, sur sortir du capitalisme du désastre, que j'avais annoncé en 2021. Je donne juste mon exemple. Et énormément de gens ont travaillé sur les sujets. Mais j'ai travaillé aussi sur la transition écologique. Une transition écologique qui n'a rien à voir avec cela. Mais le camp national, il y a tout le cercle Aristote, tout le travail du cercle Aristote, par exemple. Et tous les auteurs qui sont présentés sur tous les sujets. C'est-à-dire le camp national a énormément travaillé. Alors que le camp antinational est complètement en train de péricliter. Ils nous produisent, en fait, ce qui était chez Grasset, c'est-à-dire des Caroline Fourest et des Virginie Despentes. Mais rien de plus au niveau intellectuel.
Je rappelle que chez Grasset, vous avez aussi Chalandon, vous avez aussi Rosinchet, vous avez aussi Bec Bédé. On ne va pas rentrer non plus dans la caricature, parce que moi, je vois des maisons d'édition à droite. Au niveau production, c'est une méthode de gauche sans le talent. Donc, gaffe. Faisons attention aux emballements. Je disais simplement, pour revenir sur la stratégie Trump et les élites, c'est pas un compromis avec les élites, évidemment, même si on a vu chez Trump beaucoup d'élites rejoindre Trump alors qu'ils étaient dans le camp progressiste avant. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez vous remettez la politique au centre avec cette volonté en disant « moi, je vais changer », bon, évidemment qu'il y a des gens qui vous rejoignent et puis vous en créez d'autres, mais ce que je disais simplement, c'est qu'on ne pourra rien faire si on n'a pas une stratégie de remplacement d'élite. On peut rêver des référendums dans toutes les sauces, si vous le voulez. On a besoin de magistrats, on a besoin d'universitaires, on a besoin de profs, on a besoin de culture. Un pays sans culture, sans profs, sans magistrats, sans université, c'est un pays, mais ça s'appelle plus la France. Et donc, quelle est la stratégie pensée pour ça aussi? Parce que ça, ce sont des institutions que j'appelle illégitimes, mais pas non plus pas au sens péjoratif, ce sont au sens que ces personnes-là ne sont pas élues. Et on ne peut pas faire sans elles. Donc, il faut penser à ça également. Et bien c'était intéressant, c'est Donald Trump. À ce niveau-là, vous regardez, vous avez les post-libéraux, c'était les universitaires. La Claremont Institute, c'est les intellos. Les Lumières sombres, c'est les technos. Et puis vous avez l'Heritage Foundation, qui est le plus ancien think tank, donc un vrai think tank, pas un think tank à la française, où on dépose un think tank pour gagner 3 oseilles et lever de subventions, qui produit des idées, qui produit des élites, l'Heritage Foundation étant le plus ancien conservateur. C'est intéressant de voir comment ça a marché. Alors, on va voir si ça a marché jusqu'au bout, parce que là, en ce moment, ça ne marche plus très bien. Mais en tout cas, il y avait une vraie stratégie, ce n'est pas la stratégie de Bannon. Moi, quand j'entends le camp national, j'ai l'impression d'entendre Trump 2016.
Arthur de Batrugan, par exemple, les juges. On est dans une république, effectivement, des juges qui ont pris le pouvoir au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau du Conseil d'État, etc. Bah, évidemment qu'il faut travailler dessus. Mais vous n'allez pas. Il faut supprimer le syndicat de la magistrature qui fait de la politique. Et ça, la droite devrait avoir au moins ce courage de le faire, puisque, en fait, des juges ne peuvent pas faire de la politique et être impartiaux et neutres. Donc, c'est la justice qui est remise en cause avec ce syndicat. Mais il y a aussi tout un tas de moyens sur lesquels travailler. Moi, je travaille, on y réfléchit, le Grand National, sur comment faire en sorte que le juge redevienne le bouche de la loi et ne vienne pas le législateur ou le décideur en dernière instance qui prend le pas sur les représentants du peuple.
Philippe Muret et Arthur de Vatrigan, pardon, on a ouvert un débat bien trop long pour le temps qui nous est imparti, mais peut-être pourra-t-on reprendre une prochaine fois, peut-être même en studio si jamais vous le souhaitez, justement sur cette question de l'élite, de la droite et bien du bilan du camp national. Mais malheureusement, on doit mettre fin à cet entretien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, Philippe Muret, je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement politique citoyen, et Arthur de Vatrigan, de votre côté, on vous dit à la semaine prochaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h15, dans un instant, la chronique d'Astrid de Némésis. Et puis, nous recevrons Séverine Dumini, coordinatrice de Parents Vigilants. Voilà, merci d'être avec nous. Tout de suite, un petit point sur l'actualité avec Maïlys Clozel.
Alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lance une régularisation massive de sans-papiers, Jordan Bardella dénonce un risque de submersion migratoire pour les pays de l'espace Schengen, à commencer par la France, tandis que Bruno Retailleau appelle à sanctionner l'Europe, mais on n'oublie pas son mauvais bilan à l'intérieur en matière d'immigration. Et 4 associations de livreurs portent plainte contre Uber Eats et Deliveroo pour traite d'êtres humains, en cause des conditions de travail dénoncées comme relevant d'un esclavage moderne selon Médecins du Monde, mais paradoxalement, ces associations gauchistes se montrent très favorables à l'accueil de masse d'immigrés et donc à leur exploitation. Et Gérald Darmanin se félicite d'une hausse de 70% des expulsions de détenus étrangers malgré des prisons toujours saturées, avec plus de 88 000 détenus et une surpopulation record. Aurore Berger appelle à durcir la politique migratoire pour éviter que les Français disent stop à toute immigration, ce qui est déjà le cas. Et nous célébrons ce 23 avril Saint-Georges et Saint-Égide.
Merci Maïlys.
Ligne droite.
Et nous recevons donc, comme je le disais aujourd'hui, Astrid de Némésis. Astrid, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour Alexandre, je vous entends très bien.
Alors, aujourd'hui, de quoi voulez-vous nous parler ?
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Némésis Italie. Et oui, parce que quand on pense à l'Italie, les images s'imposent d'elles-mêmes. La Dolce Vita, le prestige des arts ou encore cette cuisine du soleil qui semble presque figer le temps. C'est avec cet imaginaire en tête que nous avons franchi les Alpes en mai dernier. Mais nous n'y allions pas en tant que touristes, nous y allions pour porter un message de prévention, pour raconter à nos voisins ce que 40 ans de politique laxiste avait fait à la France. Nous pensions, c'est vrai, arriver avec une grande longueur d'avance sur le diagnostic. La réalité, néanmoins, nous a rattrapés dès la frontière. L'Italie, longtemps perçue comme une simple terre de passage, un couloir vers le nord de l'Europe, est devenue une ligne de front. Nous avions sous-estimé les conséquences de cette pression migratoire sur nos sœurs italiennes. En croyant prévenir nos cousins, nous avons réalisé que le mal était déjà implanté. Plus nous étudions la situation sur place, plus les chiffres faisaient froid dans le dos. La réalité statistique est venue balayer le romantisme des cartes postales. Et oui, en Italie, les étrangers sont 5 fois plus représentés dans les statistiques de violences sexuelles. Ils sont également 3 fois plus représentés dans les féminicides, mais aussi 3 fois plus représentés dans les violences domestiques. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des noms, ce sont des visages qui font écho de façon tragique à notre quotidien français. Et plus on creusait, plus les drames locaux faisaient miroir à notre situation nationale. Le mois précédent notre arrivée, c'est une jeune fille de 14 ans qui se faisait frapper et violer par un Égyptien de 21 ans à Milan. Quelques mois plus tôt, c'était un Italien d'origine africaine qui ôtait la vie d'une femme à coups de couteau à Bergame. La géographie change, mais le scénario reste tragiquement identique. Le constat était là. La porte d'entrée de l'Europe est en train de céder, et les premières victimes sont, comme toujours, les femmes. C'est à Turin que tout a basculé. Nous n'étions plus venus chercher des auditeurs, mais des sœurs de combat. Je me souviendrai toujours la fin de notre intervention. Un petit groupe de 4 jeunes femmes s'avance vers nous. L'émotion est palpable. Elles nous prennent dans leurs bras et là, les mots sortent. Elles voient leur ville sombrer. Elles sentent l'insécurité s'installer au coin de leur rue, en bas de chez elles. Mais elles se sentent si seules. Elles ne savent pas comment résister, comment dénoncer et comment affronter cette nouvelle réalité. À cet instant précis, Némésis Italie a cessé d'être un projet théorique pour devenir une réalité organique. Ce n'était plus une exportation française, c'était une nécessité italienne. À partir de là, tout s'est accéléré. Ces femmes n'attendaient qu'un signal, elles n'attendaient qu'une structure. Et donc nous nous sommes organisées. Un mois plus tard, on était déjà dans la rue avec elles. En pleine Gay Pride, face au maire de la ville de Turin, nous déployons une banderole contre la GPA, rappelant que le corps des femmes n'est pas une marchandise. Suite à ça, l'ouverture des réseaux sociaux et d'un coup une déferlante. Des dizaines, puis des centaines de messages, des femmes de tout âge qui nous disent « Merci d'exister, comment pouvons-nous vous aider ?» Galvanisées, elles ont structuré une veille médiatique, organisé des actions de terrain et des rencontres hebdomadaires. En moins d'un an, ce qui n'était qu'une discussion à Turin s'est transformé en un mouvement de plus de 50 membres actifs dans tout le nord de l'Italie et des milliers de soutiens à travers la péninsule. Aujourd'hui, Némésis Italie est invitée chaque semaine pour faire des conférences, participer à des podcasts ou encore donner des interviews. Pourquoi un tel succès? Parce que les Italiennes ont compris une chose fondamentale. Elles voient la France un avertissement. Elles ont compris que si elles ne se levaient pas aujourd'hui, le sort de leur pays serait celui de l'Hexagone demain. On ne peut pas leur en vouloir, de tout faire pour éviter notre destin. Elles nous regardent avec affection, mais aussi avec effroi, comme un miroir du futur qu'elles ne veulent pas vivre. Au contraire, leur courage nous oblige. Némésis n'a plus de frontières, car la menace que nous combattons n'en a pas non plus. L'Italie s'est réveillée, et ce n'est que le début. Leur combat est le nôtre, car si les Alpes nous séparent, la réalité du terrain, elle, nous unit.
Merci beaucoup Astrid pour cette chronique et encore bravo effectivement au collectif Némésis d'avoir réussi à traverser justement les frontières, les barrières de la langue, de la culture pour aussi défendre des combats communs qu'on peut avoir au niveau européen. Merci à vous, on sait le rôle que vous y jouez et puis on vous dit à bientôt peut-être sur l'antenne de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, nous allons parler eh bien, de l'école complice du transactivisme. Ce sera un entretien avec Séverine Dumini, coordinatrice nationale de l'Association des parents vigilants, donc émanation du parti Reconquête. Séverine Dumini, je vous laisse entre d'excellentes mains, étant donné que ce sont celles de Maïlys Clauzel qui animera cet entretien.
Bonjour Séverine Dumini, est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, bonjour, parfait.
Bien écoutez, merveilleux. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous d'une affaire donc, qui a été révélée par votre association, une affaire tout à fait troublante, hein, comme d'habitude. Alors pour commencer, chère Séverine Dumini, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement cette affaire est absolument scandaleuse? S'il me semble bien, c'est une affaire qui révèle en fait de la complicité de nos écoles dans le transactivisme.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur l'histoire de cette affaire, notre collectif a été contacté par une maman qui s'appelle Marie-Laure et qui nous a raconté son histoire. Marie-Laure est mère de trois enfants. Elle a élevé seule ses trois enfants et elle nous explique qu'il y a quelques années, sa fille était donc scolarisée dans un collège de Brest. Et lorsqu'elle était en cinquième, un jour, sa fille rentre de l'école, du collège, et donne un devoir à faire signer à sa maman sur la demande du professeur, comme ça se fait souvent. Et donc, la maman découvre sur la copie que le prénom indiqué n'est pas celui de sa fille, mais c'est le prénom Arthur. Et donc là, elle interroge sa fille, et sa fille lui explique qu'à sa demande, eh bien, le collège a validé un changement de prénom sans que les parents n'aient été informés. Alors, Marie-Laure donc tombe de sa chaise, j'ai envie de dire. Elle prend contact avec l'établissement qui confirme Et elle apprend par ailleurs, lors de cette rendez-vous, que sa fille a vu l'infirmière scolaire qui lui a transmis une brochure sur la transidentité et qui a indiqué à sa fille que si elle souhaitait prendre un traitement hormonal pour démarrer une transition médicale, eh bien, elle devait se rapprocher du planning familial. Et tout ça, sans aucune consultation avec les parents, sur une adolescente qui, à l'époque, avait 13 ans. Donc, suite à ces événements, Marie-Laure a fait suivre sa fille psychologiquement. Il y a eu des hauts et des bas. Sa fille a fait une tentative de suicide aussi. Et il y a quelques mois, sa fille a eu 18 ans et a quitté le domicile familial, a rompu tous les liens avec sa mère. Et donc, sa mère est en souffrance, hein, c'est une histoire personnelle très douloureuse. Et sa mère a appris que sa fille envisageait prochainement une intervention chirurgicale, une torsoplastie, hein, donc une suppression mammaire. Et Marie-Laure est très inquiète, elle souhaitait alerter. Elle est très inquiète parce qu'elle craint que sa fille ne regrette un jour ce choix. Sa fille a 18 ans. 18 ans, c'est encore très jeune pour prendre des décisions aussi importantes et irréversibles. Et Marie-Laure considère que, eh bien, dans cette histoire, l'école a une lourde responsabilité d'avoir permis, officialisé, validé le ressenti d'une jeune fille de 13 ans sans que les parents aient été consultés. Voilà. Donc, Marie-Laure nous a contactés pour demander de l'aide parce qu'elle souhaitait absolument porter cette affaire, on va dire, publiquement pour alerter sur le danger, de valider comme ça, de manière aussi jeune, au sein d'un établissement scolaire, des choix et des orientations de dysphorie de genre et d'aller de manière aussi déterminée sur une validation de ce que peut ressentir un jeune à cet âge-là. Et donc, c'est pourquoi elle a écrit au ministre de l'Éducation nationale une lettre que nous avons co-signée avec le collectif Lettres Trans pour demander qu'un audit soit réalisé pour, d'une part, évaluer la conformité des interventions des associations, puisqu'on sait que les associations interviennent, on pourra y revenir, des associations qui interviennent sur ces questions-là, donc la conformité avec la neutralité du service public, et également mesurer l'impact réel sur le bien-être des jeunes, sur l'équilibre psychologique des jeunes, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, sensible, et qui doit être pris avec beaucoup de prudence.
Alors effectivement, vous l'avez mentionné, des associations ont donc intervenu au sein de cette opération qui est quand même assez peu anodine. Donc le planning familial notamment, qui est une association qui est carrément revendiquée à gauche, puisque pour orienter une jeune fille vers un traitement hormonal, il faut, je crois l'être. Comment se fait-il que ces associations aient littéralement réussi à infiltrer nos écoles, Séverine Dumini?
Alors, il y a d'abord, sur le planning familial et sur d'autres associations, il y a une reconnaissance officielle de l'Éducation nationale, puisque le planning familial, comme d'autres associations, bénéficient d'un agrément officiel pour intervenir dans les établissements scolaires. Maintenant, il y a d'autres associations également qui interviennent sans être officiellement agréées. Et pour comprendre un petit peu le lien qui existe entre les associations et les établissements, sur cette affaire de Marie-Laure, il y a derrière une association qui a joué un rôle certainement important, qui est l'association Parlons Trans, qui est une association locale sur Brest.
D'accord.
Et qui a intervenu dans l'établissement dans lequel était scolarisée Marie-Laure. Et il faut savoir qu'à l'époque où sa fille était au collège, l'établissement, qui est un établissement collège-lycée, qui accueille à la fois des collégiens et des lycéens, était en plein projet sur la question LGBT du genre, puisqu'il y avait un projet sur 2 ans avec les lycéens, mais comme l'établissement est aussi ouvert aux collégiens, on va dire que les élèves baignés et les personnels dans ce climat, on va dire, dans l'affirmation du genre et la mise en avant des questions LGBT, il y avait un projet donc sur 2 ans, réalisé par les lycéens avec l'établissement et avec cette association Parlons Trans sur ces questions LGBT, la réalisation de vidéos, etc. Et cette association Parlons Trans, eh bien, elle est intervenue sur un plateau d'une télévision locale il y a quelques années et elle a expliqué qu'elle intervenait dans les établissements scolaires de la région de Brest sur la demande des établissements. Qu'elle intervenait pour former, discuter avec le personnel et notamment avec les infirmières scolaires. Donc là, il y a eu en tout cas, mais on sait que ça continue. En fait, il y a une légèreté qui est de faire intervenir des associations, mais qui ont quelle légitimité pour parler de ces questions-là? Ce sont des associations qui défendent certes peut-être des droits sur les personnes LGBT, mais quand il s'agit de s'adresser à un jeune public, à des enfants, à des adolescents, sur des sujets aussi sensibles, eh bien on peut être en droit d'attendre que l'éducation nationale, eh bien, prenne des mesures et en tout cas contrôle et je dirais même qu'en fait ne devrait pas permettre que des associations interviennent sur ces questions-là. Ça devrait être uniquement des professionnels de la santé et de l'enfance qui puissent intervenir, accompagner et discuter avec les jeunes de ces questions. Donc il y a vraiment une problématique sur cette question-là, un manque de prudence, hein, et c'est pourquoi nous avons co-signer cette lettre pour demander, alerter. D'autant plus qu'on sait que c'est un sujet qui est très sensible et que aujourd'hui les études scientifiques sur cette question de la dysphorie de genre et de la transition de genre chez les jeunes, eh bien, il y a une étude clinique qui est sortie récemment, une étude finlandaise qui portait sur 2000 jeunes qui étaient suivis pour une transition de genre. Une étude qui portait pendant 25 ans, hein, donc c'est vraiment une étude scientifique fiable et à long terme, et qui a mis en évidence que, eh bien, la réassignation de genre médicale et chirurgicale ne réglait pas le mal-être psychologique de ces jeunes et au contraire, parfois même empirait l'état psychologique de ces jeunes. C'est-à-dire que la transition médicale et chirurgicale n'est pas une solution à la détresse psychologique qui est induite par, eh bien, les troubles de dysphorie de genre. Donc c'est la première fois, hein, qu'on a une étude clinique aussi claire et catégorique, et donc, eh bien, l'éducation nationale devrait se saisir de cette étude pour finalement, eh bien, prendre acte et mettre en place en fait un accompagnement qui soit approprié, qui soit beaucoup plus prudent par rapport à ces questions-là, puisqu'on a des jeunes qui sont fragiles. On sait bien que les jeunes sont il y a beaucoup de jeunes qui sont fragiles psychologiquement. Il y a cette question de la santé mentale des jeunes qui doit être prise en compte aussi.
Oui, qui sont fragiles et aussi, on imagine, ô combien influençables, malheureusement, au vu de leur jeune âge. Selon vous, Séverine Dumini, qui, justement, permet la présence de ces associations au sein des écoles? Qui porte donc un peu le chapeau de la responsabilité? Est-ce que c'est l'État qui a la marge de manœuvre là-dessus, ou est-ce que c'est carrément le directeur de l'école, d'un point de vue local, qui permet la présence de ces associations vecteur de propagande idéologique, comme le dit si bien auditeur sur le chat en direct YouTube?
Oui, alors je dirais un peu les deux à la fois, c'est-à-dire que les chefs d'établissement ont la liberté de permettre à des associations d'intervenir, qu'elles soient agréées ou non de manière officielle. Donc c'est sous la responsabilité du chef d'établissement. Maintenant, s'ils ont cette possibilité, c'est bien parce que le ministère de l'Éducation nationale leur permet. Et il y a également le ministère de l'Éducation nationale qui officialise l'intervention d'associations comme le planning familial, mais aussi comme, je dirais, une autre association, le MAG Jeunes LGBT, qui est une association qui de jeunes donc de la communauté LGBT, qui fait partie d'une fédération européenne qui s'appelle IGLIO, qui est une fédération européenne d'associations qui revendique officiellement l'autodétermination des jeunes, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune dit qu'il est né dans le mauvais corps et qu'il est transgenre, eh bien, on doit accepter eh bien cette parole, quel que soit l'âge du jeune. Donc ils sont sur cette ligne-là et c'est une association qui, le MAG LGBT, a agréé par l'Éducation nationale. Donc vous voyez que on a à ces deux échelles, on laisse entrer ces associations et il y a évidemment un manque de prudence par rapport à ces questions-là. Et nous, on considère même, pour le réseau des parents vigilants, que ces associations, ce type d'association ne devrait pas intervenir dans les écoles. Si on veut parler de cette question de LGBT, ce qui est normal d'en parler à l'école, de parler de l'homosexualité ou de ces questions-là, ça doit être sur un cadre académique, c'est-à-dire au travers, par exemple, des cours d'éducation morale et civique, où on va transmettre aux élèves les informations sur la loi, les évolutions de loi qui peuvent exister, ou bien sûr dans les cours de SVT. Et il peut y avoir des interventions, il doit y avoir aussi des interventions de personnel scolaire médical, des psychologues ou des infirmières scolaires sur les questions plus délicates de santé liées à ces questions-là, mais avec des professionnels et non pas avec des personnes qui sont des militants et qui n'ont aucune légitimité, aucun diplôme pour pouvoir intervenir face à des jeunes.
Alors, si je ne m'abuse, Séverine Dumini, la maman de l'enfant, a justement envoyé une lettre au ministère de l'Éducation. Est-ce que vous pensez que M. Édouard Geffray apportera-t-il une réponse ferme ou alors est-ce qu'il va, comme d'habitude, faire l'autruche ?
Mais écoutez, on va bien voir. J'aimerais bien, j'espère, même si, on n'en a aucune certitude, mais j'espère qu'il pourra en tout cas apporter une réflexion. Et peut-être, la réponse, elle sera ce qu'elle est, mais qu'il y ait une réflexion vraiment qui soit engagée au sein du ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet. Maintenant, on peut avoir des doutes dans la mesure où, il y a quelques semaines, nous avons appris par les médias qu'un colloque qui devait être organisé au Collège de France sur l'enfant cible des idéologies, c'était le titre du colloque, c'est un colloque qui est organisé par l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est une association qui est contre les transitions de genre chez les enfants et les adolescents mineurs. Et donc ce colloque qui devait avoir lieu au Collège de France, on a appris qu'il était annulé. Et selon les organisateurs de ce colloque, c'est parce que le programme a été dévoilé dans le détail et que dans le programme, il y avait deux interventions qui manifestement posaient des problèmes à certaines personnes. L'une qui portait sur des jeunes qui avaient détransitionné et l'autre qui portait sur la dysphorie de genre. Et donc, selon les organisateurs, parce que c'est à cause de ces deux conférences, à cause de ces deux interventions, que le Collège de France aurait décidé d'annuler l'intervention. Donc on voit bien que c'est un sujet sensible et qu'il y a une volonté de ne pas parler de ces questions de transition de genre chez les jeunes et des effets négatifs ou bien des questionnements de la question des transitions, c'est-à-dire parfois de prendre une décision trop tôt. On voit bien la difficulté au plus haut niveau à parler de ces questions-là qui sont pourtant fondamentales pour les enfants.
Effectivement, c'est fondamental. Et justement, s'il y a un manque cruel de réponse de la part de l'État sur ce sujet, est-ce que c'est par manque de moyens ou alors est-ce que c'est un manque de volonté politique ou tout simplement l'État est pour le moment dépassé par ces situations ? Selon vous, qu'en est-il à ce niveau-là ?
Mais je pense qu'il y a derrière des pressions politiques, idéologiques, c'est clair. On sait bien qu'il y a des mouvements, des associations sur ces questions militantes qui sont assez puissantes et qui n'ont pas intérêt, en fait, à ce que on parle trop de cas de personnes qui ont détransitionné parce que ça va à l'encontre du discours qu'ils portent depuis longtemps. Donc, on voit bien qu'il y a, on sent bien que derrière ces associations exercent une forte pression. Mais il faudrait un certain courage parce que c'est fondamental, parce que l'intérêt, c'est l'intérêt des jeunes, de la santé de nos jeunes. On peut pas continuer à faire l'autruche. Et d'ailleurs, dans les programmes même de l'éducation nationale sur ces questions-là, puisque maintenant, depuis septembre dernier, vous avez l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Et donc, il y a un programme qui est sorti, mais il y a aussi des supports pédagogiques qui viennent de sortir à destination des professeurs pour donner des exemples de supports à utiliser en classe pour parler de ces questions-là. Et donc, notre réseau a consulté les supports proposés, notamment pour la classe de seconde, et on observe que sur la question de la transidentité, tous les supports proposés sont des supports qui sont issus soit du cinéma, soit de youtubeurs transgenres, soit d'acteurs transgenres. Donc, alors ça interroge beaucoup parce que prendre comme référence des youtubeurs alors que le gouvernement insiste sur l'effet néfaste des réseaux sociaux chez les jeunes, eh bien, on peut trouver ça assez paradoxal. Oui. Et puis, ça donne une image un peu idéalisée, fantasmée des personnes qui ont transitionné et qui est loin de la réalité, finalement, eh bien, de ce sujet qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicate.
Alors, effectivement, et justement, en attendant que l'État, malheureusement, lève le petit doigt, eh bien, il y a cette solution, en tout cas, c'est présenté comme telle, des écoles hors contrat qui, manifestement, empêcheraient donc ce genre de propagande au sein de leurs écoles qui épargnerait ces jeunes enfants de toutes ces idéologies mortifères. Vous, est-ce que c'est une solution à laquelle vous êtes favorable?
Alors, ça, c'est le choix de chaque parent, hein, de choisir, on va dire, l'établissement qu'ils pensent correspondre le mieux à leurs enfants. En tout cas, ça n'est pas pour nous une solution satisfaisante. C'est-à-dire que c'est pas normal de devoir se diriger vers des établissements privés hors contrat, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'il y a beaucoup de régions où eh bien, les parents ne peuvent pas trouver d'établissement hors contrat à proximité, où la scolarité peut aussi avoir un certain coût. Donc, on peut se satisfaire de cette solution. On peut comprendre les choix et des parents, effectivement, à choisir s'il y a la possibilité. Ça peut être une solution personnelle. Mais en tout cas, nous, ce qu'on réclame, c'est que eh bien, dans chaque établissement scolaire, que ce soit dans le privé, dans le public, eh bien, on fasse sortir ces idéologies néfastes pour nos jeunes et qu'on revienne sur du bon sens, en fait, parce que pour moi, c'est du bon sens de présenter cette question de la transidentité de manière prudente en montrant que peut-être pour certains ça peut convenir, mais notamment avec le collectif Lettres Trans, hein, il faut savoir que ce collectif il milite pour que les transitions de genre ne puissent être possibles qu'après 25 ans, parce que ça paraît normal avec des décisions médicales, chirurgicales aussi lourdes et irréversibles, eh bien, de prendre le temps et qu'en fait on présente eh bien, ce sujet-là de cette manière-là avec beaucoup de prudence et en montrant que parfois eh bien, des personnes aussi peuvent regretter eh bien, ces transitions et donc il faut du temps, il faut réfléchir et ça n'est pas forcément une solution idéale comme elle est présentée actuellement dans les programmes.
Alors Séverine Dumény, il nous reste malheureusement déjà moins de 2 minutes. Quel est le futur de parents vigilants? On imagine que vous allez suivre cette maman et la suite de cette triste histoire, mais on imagine que vous avez également beaucoup de projets.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on attend le retour du ministre de l'Éducation nationale à ce sujet. On continue nos enquêtes hein, sur ces questions-là avec notamment bah, toutes les associations qui peuvent intervenir. Donc, on fait un travail à ce sujet de vigilance, on va dire, d'études là-dessus. Et on continue eh bien, à recevoir et à encourager les parents à témoigner sur leur expérience hein, en déposant leur témoignage sur le site parentsvigilants.fr et donc de continuer à alerter sur ce qui se passe dans les classes. Je pense que c'est important.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Séverine Dumény, d'être venue. Mmh. Parler de tout cela à notre antenne ce matin.
Merci à vous pour votre invitation.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, on imagine que qu'on vous réinvitera effectivement très bientôt pour parler de transactivisme et de tous les méfaits que ça provoque, malheureusement, de manière assez irréversible sur la vie de nos enfants. Donc, merci beaucoup, madame, et à très bientôt.